Bienvenue au podcast Tupica, le podcast pour les geeks de sport. Où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport? Aujourd'hui, je reçois Antoine Mose, qui est un gars que je connais depuis un petit bout. On en parle pendant le podcast, mais pour l'anecdote, Antoine, c'est le détenteur du record Guinness du plus grand nombre d'arbres plantés en 24 heures. Je pense que c'est au-dessus de 20 000 arbres. Là, c'est quelque chose de débile mental. Évidemment, on parle de ça, mais il est aussi un ultra coureur ou un coureur d'ultra trail. Il est arrivé troisième au ultra trail Arikana cette année d'ailleurs. C'est un jeune homme extrêmement talentueux. On parle de sa préparation pour les courses d'ultra, mais on parle aussi de comment sa job en tant que planteur d'arbres est une préparation pour un ultra. Il nous parle de sa vision aussi de comment sa vision de la plantation d'arbres a évolué au fil du temps, comment il est devenu de plus en plus avec un intérêt pour l'aspect écologique du truc. Il voulait plus juste faire des plantations de monoculture. Il voulait s'intéresser à comment est-ce qu'il peut avoir un impact réel dans le monde et dans l'environnement. On discute de ça, puis je trouve que sa vision a l'air très, très claire. On dirait qu'à travers les années, il a trouvé un peu qu'est-ce qu'il voulait faire avec sa plateforme, comment il voulait utiliser sa tribune. Et là, avec son nouveau drink qu'on parle durant le podcast, vous allez voir, écoutez, il va vous en parler. Donc, à chaque canette vendue, il va planter un arbre. Donc, il y a cette vision environnementale-là aussi qui est intéressante. Antoine, c'est vraiment un cool guy, chic type. Je vais mettre tous les liens là, dans la description, sa compagnie de drink. Puis là, je veux juste pas dire n'importe quoi, c'est Vanna, je crois. Je vais juste double vérifier là, pour être sûr de pas vous dire des conneries. Puis je vais faire ça même pendant le podcast. Oui, exact, c'est Vanna. Donc, Vanna Hydratation, qui est un drink fonctionnel, 100% naturel, pas d'agent de conservation, pas rien de mauvais pour la santé dans ce drink-là. Allez suivre ça. Allez suivre Antoine aussi sur toutes ses plateformes. Il fait du contenu super intéressant. Le podcast est présenté par Upica. Parlant de drink, Upica, c'est le tout-en-un ultime pour vos besoins de sport d'endurance. Le Upica Endurance, il y a 25 grammes de glucides, des électrolytes, 300 mg de sodium, 1 g de taurine, de la vitamine B et C pour améliorer l'endurance, réduire le stress oxydatif. Bref, tout ce que vous avez besoin pour pendant votre effort, on a le Upica Récup qui est pensé spécifiquement avec les besoins des athlètes d'endurance. Donc, c'est pas pour avoir des gros bras, c'est pour récupérer après chaque entraînement. Le produit parfait pour la récupération, pour aller chercher cette constance autant nécessaire au sport d'endurance. Upica.ca, utilisez le code promo Upica Podcast pour 10% de rabais sur votre première commande. Sans plus attendre, bon podcast.
Ouais, ben check, ça roule, man, on parle déjà de, dans le fond, Vanna.
Vanna, exact.
Ouais,
Vanna
Hydration. Ouais, on va en faire un intro, là, commence pas aussi rock ça.
C'est ça.
Mais, fait que peux-tu m'expliquer c'est quoi la genèse de ce projet-là, puis comment l'idée t'est venue, puis c'est quoi essentiellement?
Ouais, absolument, ben dans le fond, c'est pas juste une boisson aussi, là. C'est un produit naturel, fonctionnel et de performance un peu, si on peut se le dire. C'est sûr que le produit va se développer au fil des brosses à chaque fois qu'on va changer le produit puis développer des nouvelles saveurs et tout, là. Mais c'est une boisson naturelle d'électrolyte pour les athlètes d'endurance puis un peu pour tout le monde qui fait attention à leur santé et genre le monde qui boivent des boissons comme Pepsi. Ben, je ne vais pas les nommer, là, mais les sodas habituels.
Je pense pas que tu vas faire poursuivre
non,
par
Pepsi. Non, c'est ça, sûrement
après
pas.
Après moi, ils n'écoutent pas le Upica podcast.
Parce que dans le fond, Vanna, c'est vraiment une alternative santé. Il n'y a aucun arôme. Ça, en premier lieu, il n'y a aucun produit sur le marché qui n'a pas d'arôme. Là. C'est, même les arômes naturels, c'est que il y a un certain taux de l'arôme qui n'est pas vraiment naturel, puis ils peuvent le classifier naturel. C'est comme un peu le free-for-all là, dans les produits de même. Il n'y a aucun agent de conservation, il n'y a aucun sucre ajouté. Fait que c'est vraiment juste des purées de fruits avec du thé noir pour avoir un petit goût de la nature puis un petit peu de caféine. La version boréale, limonade boréale, il va avoir un peu de sapin dedans, fait qu'un extrait de sapin. Fait que dans le fond, tout l'arrière-plan de ce produit-là, c'est que chaque canette va planter un arbre.
C'est ça l'affaire, parce que
Ben, écoute, ceux qui le savent pas, puis je sais pas si ceux qui te connaissent, s'ils le savent pas, il y a sûrement du monde qui écoute qui te connaissent pas.
Ça se peut.
Mais ouais. Tout est un planteur d'arbres.
Exact.
En premier lieu, ouais. Record Guinness qui tient encore.
Encore à ce jour.
Du record, et puis je pense qu'il va tenir un petit bout, peut-être.
J'espère.
Là, du nombre d'arbres plantés en 24 heures. Exact. Fait qu'un feed, c'est combien?
23 060.
23 060 ouais. Arbres. Fait que ça vient de là aussi. Tu sais, une canette, c'est un arbre, puis. Avec qui tu travailles pour faire ça?
Dans le fond, là, j'ai ma propre compagnie, Entomos, qui va être la compagnie qui va soit planter les arbres ou soit diriger les fonds vers des organismes et des projets de planting qui sont éco-responsables, qui ont vraiment... on va être rigoureux sur la sélection des projets parce que, dans le fond, moi, j'ai un gros background dans la foresterie.
Ben, tu sais de quoi tu parles.
Puis je sais de quoi je parle, mais en termes de foresterie, moi, ce que je veux, c'est vraiment pas encourager ça parce que l'industrie forestière, c'est pas quelque chose qui sauve l'environnement.
Okay.
C'est pas... On plante des lignes d'arbres, une sorte d'arbre.
De la monoculture d'arbres.
La monoculture pure. Fait que c'est vraiment du tree farming qu'on appelle. Ouais. Fait que c'est correct dans un sens parce qu'on a besoin de la demande, mais c'est pas ce que je veux encourager.
C'est des matériaux renouvelables.
C'est exact, c'est la meilleure ressource renouvelable.
Mais toi, c'est pas ça que tu veux.
Non, pas du tout. Avec Vana, ça va être seulement des projets éco-responsables qui viennent à reforester puis aussi restaurer la biodiversité des forêts. Là.
Cool.
Fait que ouais, c'est une passion que j'ai. Dans le fond, c'est... Le merge entre ma passion de l'endurance, de la santé, la course, puis le planting. Fait que c'est vraiment le projet qui me tient à cœur.
Puis Vana, pourquoi?
Vana, ça veut dire forêt en sanskrit indien.
Okay,
fait
cool.
Que ouais, ça venait de là, puis c'est accrocheur, je trouve, puis ça se dit bien.
Ouais,
que,
tout à fait.
Ça paraissait bien.
Puis là, tu me dis, parce que, écoute, je connais ça, les boissons sportives.
Ouais, absolument.
Ça tombe dans mon wheelhouse, mais fait tu me ça, dis boissons sportives. Fait que...
Boissons comme fonctionnelles de performance un peu,
ouais.
Mais en ce moment, comme là, je peux te les lire comme selon ce qu'ils sont vraiment, là,
ouais.
C'est 20 calories avec glucides, ça va être 6 grammes de glucides à cause des fruits,
ouais.
Qui donnent le goût, dans le fond. Il n'y a aucun arôme, fait ouais. Que le goût est à partir des fruits.
Il y a un peu de stevia, j'ai vu.
Du stevia, exact. Fait que ça, c'est, ben, ça vient pas, le stevia apporte pas du sucre, mais il apporte un sucre naturel. Fait que c'est une plante. Après ça, un petit gramme de protéines. Le sodium, il y a 40 mg de sodium parce que c'est, dans le fond, si on avait voulu atteindre un niveau assez élevé de sodium, il aurait fallu en rajouter. Puis pour l'instant, la boisson, c'est une alternative santé d'une boisson habituelle comme ouais. Sur le marché. Fait que moi, je voulais vraiment ajouter aucun produit. Puis surtout que ça apporte des critères de sélection où que tu dois ajouter des réglementations sur la canne. Tu dois dire qu'il y a des réglementations journalières.
Bien ça,
ouais. Fait que je voulais pas atteindre ça. Après ça, potassium, c'est 280 mg. Magnésium, 30 mg. Fer, puis vitamine, 1 mg, puis 60 mg de vitamine C. Mm-hmm. Ça vient du jus de citron.
Fait que quand tu dis boisson fonctionnelle, c'est boisson à prendre au quotidien.
Au quotidien.
Dans le fond. Parce ouais. Que ça, c'est pas fait pour craquer pendant ton ultra. Là.
Tu peux, par contre, parce qu'on s'entend que ça aide souvent. C'est pétillant, dans le fond, ce boisson-là.
Ouais, c'est ça. Ça t'aide
à roter un peu. Puis il y a un petit peu de caféine dedans. Fait ouais. Qu'on atteint un niveau entre 30 et 40 mg de caféine.
30 à 40 mg ouais. Par canette.
On est sous la dose comme obligatoire de classifier, ouais. Là, comme une boisson énergisante. Fait qu'on est vraiment... au niveau santé, c'est comme assez... c'est bien correct pour ça.
Ouais.
Puis là, après ça, c'est ça. C'est vraiment le... C'est... Ben, c'est ça. Dans notre slogan un peu, c'est où l'endurance et l'environnement se rencontrent. Fait que mm-hmm. C'est vraiment notre philosophie avec cette boisson-là. Là.
Très cool, man.
Ouais. Puis ça va se développer au fil des projets aussi, là, parce que j'ai l'intention d'en créer une où ce que tu peux justement la craquer pendant ton ultra. Ouais. Elle va être boostée en plein d'affaires. Puis ça, c'est sûr que j'aimerais ça parce que
ouais.
Je sens que ça va m'aider. Dans le fond, c'est un produit que je veux prendre au quotidien. Là.
Mm-hmm.
J'ai toujours pris des boissons gazeuses, ou pas des boissons gazeuses, mais des bubbly puis des,
ouais.
Des eaux pétillantes. Mais encore là, c'est plein d'arômes. Puis là, je veux me sortir de ces... Comme produit chimique là.
Wow. Fait
que, c'est pour ça que ça vient de là.
Cool. Puis là, t'as deux saveurs.
Ouais, on start ça avec deux saveurs, limonade boréale et punch sauvage.
Et c'est quand ça va être sur les tablettes?
Ça va être. On va majoritairement vouloir vendre en ligne.
Ouais.
Mais ça va être sur les tablettes dans une semaine.
Ça va être dans une semaine, ça va être en vente en ligne.
Ouais, dans le fond, samedi okay. Prochain, je fais le lancement officiel
cool.
À la boutique Cielé.
Cool.
Ben là, je sais pas si ça va être.
Ça va pas être sorti. Ouais, ben, c'est que le drink est lancé dans le fond.
Ouais, ça va être lancé le 10 novembre.
Cool.
Ouais, j'ai bien hâte.
Ben, cool projet, man.
Ça fait plus d'un an que je travaille là-dessus. Fait ouais. Que
j'ai hâte qu'on en reparle plus en détail, pas sur le podcast, parce que ouais. Là, c'est un reste un podcast,
ouais, c'est
craqué de sport.
Ouais, exact.
Pis, tu voulais qu'on se rencontre, je veux dire, on voulait jaser ouais. Un peu après. Puis
ouais.
Je me suis dit pourquoi pas en profiter pour jaser de sport d'endurance exact. Pendant une petite heure avant.
Ouais, c'est parfait.
Fait que comment ça a été ta saison, toi?
Honnêtement, ça a été, au niveau entraînement, ça a été ma pire saison à vie.
Ah ouais, hein?
Puis après ça, niveau performance, ça a été comme, j'ai eu une défaite puis une victoire. Là,
ouais. Ouais.
Fait que c'est sûr que ça a été c'est ambigu comme situation, mais je suis bien content quand même. Là.
Qu'est-ce que tu veux dire au niveau entraînement? C'était la pire saison.
Ben, dans le fond, ça a commencé ma saison un peu off-season l'an dernier en septembre. Je me suis brisé la cheville.
Ah, fait que là, cassé la cheville.
Ben, une genre d'entorse de niveau de grade 3 et comme potentiellement des fractures, mais j'ai pas fait de radio. Fait qu'après ça, une belle petite niaiserie, là, un backflip dans un événement, puis pas dans un événement, mais une après-midi, puis j'ai juste comme mal atterri. C'était justement la semaine après Arikana. Fait que j'arrivais de faire un training d'intervalle, puis disons que mes jambes n'étaient pas en mode propulsion optimale. Là, fait que ça s'est pas bien passé.
Ah ouais, hein, fait que tu t'es pété la cheville. Fait que ça, c'était en septembre l'année passée.
Ouais, puis là, c'est ça, ça m'a pris un bon 6 à quasiment 8 mois, là, m'en revenir de tout ça, puis d'aussi comme reprendre le contrôle de ma cheville, puis la confiance aussi dans les trails, parce que j'ai senti...
T'es un gars qui descend en tabarnak, en plus, une descente, pas être sûr à 100% que ta cheville va mordre, c'est tough.
Ça a été long, là. Mais je suis bien content, au bout de la ligne, ça s'est bien réparé, là. Mais tu sais, après ça, j'ai eu d'autres trucs tout l'hiver, c'est sûr que j'ai pas pu m'entraîner, fait que j'ai à peine couru.
T'as-tu pu travailler un peu?
Ben oui, j'ai planté des arbres. J'ai été planter des arbres dans l'ouest sur l'île de Vancouver. Mais encore là, je le sentais à tous les jours. C'était comme un petit inconfort tout le temps. Puis quand je suis revenu au Québec dans le mois de mai, encore là, j'ai commencé à courir un peu plus là-dessus. Puis ça s'est comme réglé au fil de la saison de planting. Mais j'ai eu une courte saison de planting pour justement miser sur mon entraînement.
Ouais.
Mais aussitôt que je suis revenu, j'ai pogné à mononucléose. Fait que là, j'ai été comme 6 semaines comme sur le dos. Là. Ça a été vraiment pas optimal en plus. Là. Comme dans le mois de mai, fait que là, quand j'ai repris l'entraînement, c'est sûr que je me suis mis les bouchées doubles. Mais puis après ça, j'ai eu mon gros build d'entraînement.
C'était vers l'ultra trail chic-choc que tu buildais.
Ouais, je buildais pour ça.
Le nouveau 170 kilos.
Je visais le 170 kilos avec 10 000 mètres de D+.
Ouais, c'était il est sauvage en tabarnak. Je regardais, j'étais allé dans le parc de la Gaspésie avec ma blonde cet été, puis on checkait une coupe des montées, puis on était comme, man, c'est pas facile. Non, ça finit avec le Mont Albert, man. Ouais. Tu sais, la fin de la course, t'as 150 kilos d'impact, puis ça finit avec le Mont Albert.
Ben, je pense que ça, c'est la partie facile. Là. En fait, c'est ça que je me suis fait dire. Après, je me suis pas rendu. Là. Malheureusement, j'ai abandonné.
Le Mont Albert, c'est facile, man.
Ben, dans le sens
bonne chance en Christ.
La partie la plus comme un peu de randonneur, là, que les gens sont là toujours, là, puis que c'est vraiment établi déjà le sentier, ben, c'est vraiment le Mont Albert. Tandis que la première partie du sentier est pas très établie.
C'est
de la brousse. Là, ouais, c'est ça. Fait que c'était pas super bien.
Mais fait que ton build vers ça, c'était quoi?
Fait que ça, j'ai comme, à la suite de mon planting, tu sais, j'ai commencé à courir un peu pendant ma plantation d'arbres, mais je courais comme peut-être 60 kilos semaine. J'avais vraiment pas un gros volume. Puis là, j'ai comme quand même scaler rapidement vers du 130 km par semaine pour au moins 2-3 semaines.
Avec du gros D+ ou?
Quand même, genre 5-6 000 à peu près. Ouais. Mais l'affaire, c'est que là, c'était dans la canicule où il faisait 40. Fait que là, ça m'a vraiment brûlé. Là. J'étais à bout là, à ce moment-là. Fait que ça n'a pas été très optimal pour ça.
C'est tough en crise, man, de mettre du volume quand il fait chaud. Ouais. Là. C'est vraiment, ça tue plus qu'on pense. Là.
Puis j'ai fait de la rhabdo dans une de mes entraînements, mettons. Ah, ouais, ça a vraiment été... pendant 2 jours, là, j'ai fait des tests médicaux et tout pour essayer.
De la rhabdo pour ceux qui nous écoutent.
Ouais, c'est ça.
C'est quand tu te mets à pisser.
Foncer. Là.
Foncer.
Ouais. Fait que moi, j'ai comme établi que, ben, en tout cas, selon ce que je faisais comme entraînement, c'était. Ce jour-là, c'était des descentes assez intenses. Puis c'était vraiment musculairement difficile. Puis je déchirais sûrement mes muscles beaucoup. Puis là, ça allait dans mes reins. Puis là, mélangé avec la déshydratation, j'avais pas la capacité de filtrer tous ces muscles déchirés-là. Fait que c'est ça. Ça s'en allait dans mon urine. Puis c'est très douloureux.
Ça, c'est, man, Chris, man, c'est quand ça commence à arriver. Mais après ça, c'est ça qui t'est arrivé au Ultra Trail du Shake Shack aussi.
Fait
que c'était pas la première fois que c'était arrivé.
Non, puis ça m'avait arrivé à Ricana l'an dernier. Fait que j'étais un connaisseur de cause. Mais là, au Ultra Trail des Shake Shack, j'ai vraiment bien géré ça. Là, dans le fond, ça a commencé. Ben, c'est dur à dire, là, mais. J'ai réalisé là, c'était pourquoi je faisais de la rhabdo, c'est que je suis quand même très rapide en descente, puis je suis capable de me donner, puis je me sens pas comme si je me défonçais.
Mais les muscles, ils le sentent.
Les muscles, ils le sentent, même si moi, je me sens comme si je boulinais les jambes, ça allait bien. Là. Fait que là, ça allait arriver aussitôt que j'ai fini une grosse descente au kilomètre 40. Puis là, quand j'ai commencé à monter, c'est là que ça a commencé. J'ai uriné vraiment, vraiment foncé. Je suis arrivé au ravito d'après, je leur ai dit. Puis c'était
ils t'ont pas laissé partir. Là.
Ben c'est ça, c'était un gars de la Gaspésie qui avait écouté un podcast là-dessus, justement, la veille, je pense.
Ouais.
Fait que il m'a juste comme dit, ah, tu devrais rester ici, je pense pas qu'on va te laisser partir jusqu'à temps que tu urines au moins, Paul.
Ouais.
Puis ça a pris 1h30. Là. Ça a pris 1h30.
Mais, moi, je me rappelle, je regardais sur Instagram.
Ouais.
J'étais avec ma blonde, puis je regardais, puis là, je voyais une story de toi. Je pense que c'était... c'était qui était là, qui te filmait?
J'avais Phil Rouleau, puis il y avait aussi Renaud.
C'était Renaud. C'est Renaud avec qui j'avais travaillé l'année d'avant. Puis je voyais ces stories, puis là, c'était comme... Ah ouais, là, Antoine, il est comme arrêté un ravito, puis il pisse noir, puis là, le gars, il veut pas le laisser partir. Puis là, l'autre d'après, c'est comme, ouais, là, après une heure et demie, il est reparti. Moi, je me disais, hey man, à quel point tu veux pas prendre un DNF, là?
Non.
Parce que tu le sais, moi, je DNF facilement à des courses, puis je me disais, c'est sûr que, mettons, sur le long terme, te mettre dans cette situation-là, man, c'est horrible.
Ouais.
C'est ça, puis j'étais comme... C'est pas grave, man. J'étais avec ma blonde, je me rappelle, on en parlait. J'étais comme, man, c'est pas grave, prends le DNF, man.
Ouais.
C'est pas grave. Genre, le gars au ravito, tu pisses noir, il veut pas te laisser partir. Puis là, c'est comment il est reparti une heure et demie après. Fuck, man, à quoi tu penses dans ce temps-là?
Ben, honnêtement, j'étais.
C'est quoi tu te dis, mettons, de te dire, faut pas que je DNF? T'sais, c'est quoi la peur de tout ça? Ou le...
Ben, c'est pas une peur, c'est plus comme un commitment que je me fais avec moi-même de dire, je m'inscris à quelque chose, je le fais all-in, j'y vais tout ce que je peux donner. Puis je recule pas derrière ça. Mais
tu sais, tu t'inscris aussi à la vie, là.
Ouais, absolument.
Tu sais, genre, tu t'inscris à être capable de courir avec tes petits-enfants quand tu vas en avoir. Tu t'inscris à toutes ces affaires-là aussi, tu sais.
Absolument. C'est sûr que j'ai pas pris la même décision que j'avais pris à Ricana l'an dernier où c'était je continue no matter what, là. J'ai pas arrêté, puis j'ai uriné du sang pendant 42 kilos, puis ça a été rough, là. Tandis que là, j'ai vraiment arrêté, j'ai assimilé la situation, j'ai fait OK, est-ce que je peux m'en sortir? Je vais voir. Là. Je vais juste analyser. De toute façon, je ne pouvais pas sortir du bois avant des heures parce que j'étais pris au ravito.
Ouais.
Fait que là, j'ai juste commencé à boire du bouillon de poulet, des électrolytes, de l'eau. Ben, pas de l'eau straight, mais de l'eau avec des électrolytes. J'ai bu environ 3 litres d'eau, puis 1 litre de bouillon de poulet. Puis après ça, après une heure et demie, ça a pris une heure et demie avant que j'urine, puis j'ai uriné comme bien.
Clair.
Puis c'était long. Puis là, ils m'ont dit OK, let's go. Puis je me sentais le top shape. Là.
Ouais.
Je me sentais mieux à ce moment-là dans la course, au 50e kilo, qu'au départ de la course.
Ah ouais?
Ouais, parce qu'au départ de la course, c'était un peu une misaventure. Là. On arrive en autobus, 10 minutes après, on part. Là. Fait que là, moi, j'avais des trucs à faire, à préparer, puis j'étais dans l'autobus, je m'étais pas préparé. Ça faisait 2 heures qu'on était dans l'autobus. Fait qu'aucun warm-up.
Ouais.
J'étais aux toilettes quand ils ont annoncé le 5-4-3-2-1.
Ah ouais?
Puis genre, ça n'a pas été le meilleur départ, puis partir au gun, de même pas de réchauffement, je me sentais tout de suite défoncé.
C'est sûr.
Ça a été quand même pas facile. Puis là, à ce moment-là...
Des toilettes en plus, là.
Ouais, c'est ça.
Partir dessus le bol.
Quasiment, là.
Partir à bloc.
Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis parti direct. Puis à ce moment-là, je me sentais comme top shape. J'avais perdu comme 13 places, je pense, ou comme j'étais rendu 13e. Puis ça a pris 30 minutes, j'avais tout rattrapé le monde que j'étais, je m'étais fait prendre. Puis je me sentais super bien. Mais j'avais pas à comme préparer... Tant que ça, ma préparation des pieds, comme j'avais pas, c'est une des choses que j'ai appris dans ce course-là, que pour moi, c'est crucial d'avoir les pieds secs, puis je veux vraiment comme garder les pieds secs. Avant, je m'en foutais un peu, puis je me disais, let's go, je m'en fous, je pile dans les trous d'eau, puis je pense pas trop à ça. Mais là, c'était la première fois, aux premières courses de ma vie, que j'avais plus de pieds, genre. J'avais comme.
Qu'est-ce
dans le sens, tu t'as plus de jambes, tu te sens plus bien, t'as plus de force.
Ouais, ouais.
Là, j'avais plus de pieds, j'avais comme plus la capacité de me piler sur mes pieds parce qu'ils étaient tellement comme. Ratatiné, puis toutes les cracks étaient tellement rendus, c'était du trench foot dans le fond, puis ça avait à un certain point.
Oh,
ça,
à un certain point sur une roche. Un tableau vert avec des ongles.
À un certain point sur une roche, j'ai juste senti ça a fait. Puis ma peau en dessous de mon pied a tout détaché de mon. Comme une bonne épaisseur de peau. Là.
Oh, désolé à tous ceux qui nous écoutent au lunch ou en mangeant.
Oh, ça. Ça a été un moment assez difficile dans ma course. Là. Après ça, j'ai souffert là.
Ben, comme, man,
c'était
comprends.
Le feeling de piler sur de la vitre là. Comme vraiment là, c'était constamment pendant.
Oh, man.
Après ça a été comme 30 kilos comme ça là. Puis c'est ça, je me suis rendu au kilomètre 80 de peine et de misère à ce moment-là. Je me suis jamais fait autant souffrir comme par moi-même là.
Moi ce que tu
le plein gré,
dis là,
ouais.
Ce que tu me dis là, là
ouais.
Ça me réconforte. Moi je me suis jamais rendu même proche de ce que tu décris là, tu sais. Mes DNF, c'est quand j'ai plus de fun.
Ouais, non, c'est ça.
Je suis bien correct avec ça, mais ce que tu me décris là, man, de. Tu reviens d'une rhabdomyolyse.
Ouais. Bien motivé.
Tu reviens
là.
Crinqué.
Ouais.
Puis 30 km après être reparti de tout ça.
Ben, c'était quasiment 15 km après.
Déchiré.
Là. Ben, parce que c'était. Il était déjà commencé.
Ben, non, mais.
C'était mouillé comme ça.
Oui, je crois. Ben, man, écoute. Je comprends.
Ouais.
Fait qu'à 80 kilos, man, tu fuck that.
Ouais. Non, non, 80 kilos, j'ai juste comme, je me suis tout tapé les orteils, parce qu'en plus, un rookie mistake, j'avais comme pas vraiment coupé mes ongles d'orteils comme à point, là.
Ouais, fait que là, toutes mes orteils,
c'était au moins 4 orteils, je pense, de chaque bord qui avait tout enlevé, là. Fait que là, à chaque pas, en plus, en descente, ça me tapait, puis les orteils étaient tout en tout cas, les ongles d'orteils, il y avait de la misère, en plus.
Hey, man, c'est horrible, cette histoire-là.
Ouais, c'est pas les... C'est pas mes moments les plus glorieux en trail, là.
Chris, man.
Fait que c'est ça, mais j'ai tout tapé mes orteils, puis j'ai une photo de mes pieds, là, je te l'ai montré, si tu veux.
Non, merci.
Là,
non, non, non.
Ah non, puis, ben, c'est juste, c'est pas si pire, là. Puis, ouais, je suis reparti au kilomètre 80, puis en plus, à ce moment-là, quand je suis passé au ravito 80, le 80 km partait en même temps que moi, 10 ouais. minutes après moi. Ouais. Fait que là, je me disais, ah, au moins, ça va me donner un petit boost, là, si le monde me dépasse, puis ils n'auront pas le choix de me dépasser, là, mais je vais peut-être pouvoir me pogner un pack, puis courir avec eux, mais... Tout le long de la course aussi, j'ai manqué d'eau parce que c'était vraiment sec là, cet été. Il n'y avait pas beaucoup de sources d'eau sur le trajet. Fait que ça m'a vraiment comme nuit à ce niveau-là à partir du kilomètre 80 parce qu'on était rendu le jour. Il faisait 25-27. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de problèmes de déshydratation là, à cet événement-là cette année.
Ouais, je me rappelle, c'était une fin de semaine en plus. Là.
Puis, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai manqué d'eau. Ça a pris. Dans le fond, j'ai fait un autre 20 km, mais ça m'a pris comme 4h30. Là. Parce que je pouvais pas me nourrir parce que j'avais pas d'eau sur moi, puis j'étais déshydraté complètement, j'avais mal au cœur. Fait que là, je me nourrissais plus, je m'hydratais plus. Puis là, c'était la roue qui tourne, là, c'était une pente descendante de ma forme physique, puis ma forme mentale aussi. Là. Puis mes pieds, je pouvais pas courir. Fait que...
Man, ce que tu me décris là, c'est une histoire d'horreur. Là.
Ouais, c'était pas une belle course.
T'es sorti de ça. Là, je voulais juste essayer de refaire ton chemin mental. Là.
Ouais, ouais.
Toi, t'es sorti de ça, puis tu t'es dit. Encore.
Absolument.
Tu t'es dit, je veux recommencer cette expérience-là.
Ça a été émouvant. Là. J'ai trouvé ça rough. Là.
Ouais, parce que c'était ton premier DNF.
Ouais, ben c'était mon premier DNF.
Puis comment tu l'as vécu?
J'ai pas trouvé ça facile. Là. Genre, j'ai pas. C'était la première fois que j'étais autant déçu de moi-même. Là. Fait que j'ai dû me refocuser sur
l'introspection un peu après.
J'ai dû.
Puis, comme. C'est quoi ta. En rétrospective, c'est quoi ta vision de ce DNF-là maintenant?
Ouais, ben dans le fond, il y a beaucoup de choses qui c'est... À l'approche de la course, il y a beaucoup de choses que j'avais pas mis en place qui faisaient pas en sorte que j'avais les meilleures conditions possibles. Fait que là, tout mon entraînement, mon volume, tu sais, j'avais couru au moins deux fois moins de kilométrage que l'an dernier, à même date. Fait que là, j'étais vraiment pas prêt pour ça. Puis c'était une de mes plus grosses courses à vivre. Donc, je voulais y aller pareil parce que je me disais, le mental va prendre le dessus.
C'est chez vous aussi.
Hein. C'est chez nous. Par contre, c'est sûr que toutes les circonstances de la course, je filme un comme court-métrage sur ma vie avec Altitude Sport, puis on a fait comme beaucoup de vidéos là-dessus la journée d'avant, fait que tu sais, tout ça c'était comme un peu ça m'a quand même fatigué, puis là le jour même de la course j'avais des entrevues, des trucs à faire, fait que c'était pas, j'étais pas vraiment focus là, j'étais pas comme tunnel vision où ce que j'avais vraiment la motivation externe.
Corrige-moi si je me trompe, mais d'avoir moi, pour avoir fait les deux, là, pour m'être mis, avoir amené mon sel avec moi dans une course, avoir documenté ma performance, puis aussi ne pas l'avoir fait, ne pas avoir parlé d'un événement qui s'en venait, la pression qui vient avec vouloir documenter ton parcours est quand même vraiment lourde. Puis moi, je repense à Arikana l'année passée. Quand j'étais là pour filmer GP, puis je trouve ça tellement impressionnant qu'il ait réussi à sortir cette performance-là malgré le fait qu'on est là, tu sais, puis qu'il y a la pression de performer. Parce que s'il est DNF à 60 kilos, c'est un peu crissant pour tout le monde, tu sais. Fait que là, toi, t'as comme un peu. On tourne un documentaire sur ma vie, mais. Chris, si je DNF, man, ça suce un peu. Là,
c'est très décevant.
Fait que t'avais-tu ça un peu en tête aussi?
C'est sûr que je l'avais en tête. Puis je me
disais. Tu sais, quand tu cours, ça va vraiment pas bien, mais il y a une caméra dans ta face qui te dit let's go.
Mais c'est aussi que je le voyais pas comme une option. Fait que j'y pensais pas tellement. Je me disais, au pire, je le finis à marche, là, tu sais. Mais là, c'était trop rendu difficile de continuer à marcher parce qu'en plus, c'est que la chaleur. Puis, tu sais, j'ai passé une heure et demie au ravito avant de décider d'abandonner. Puis je suis reparti. Puis là, c'est le quad qui a passé, puis qui m'a dit, genre, ta dernière chance, j'ai fait comme j'ai pas le choix. Genre, quand j'ai essayé de repartir à courir au kilomètre 102, je courais pas. J'ai recommencé à marcher. Je voyais comme les kilomètres avant de me rendre à la prochaine étape où je pouvais abandonner. Puis c'était comme un autre 20 kilomètres, fait que je me disais un autre 4 heures. En tout cas, je voyais plus le bout. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait comme, je pense que ça vaut pas la peine de continuer. Puis aussi, c'est malheureux, mais j'ai jamais voulu m'embarquer là-dedans, mais dans un autre sens... comme j'aspire à vouloir comme faire des points ITRA, puis à avoir un meilleur pointage, puis tout ça, mais faut que je pense un peu à comme si je me prends une course où je me dis je la finis no matter what, ben ça peut m'apporter comme des répercussions négatives sur comme les pointages, là. Malheureusement. Là. Fait que j'aimais mieux comme... Tu sais, c'est vraiment pas la cause principale. Là.
OK, parce que si tu finis... T'es mieux de faire un DNF que
ben,
de
c'est dommage à dire, mais comme c'était comme... Ouais, un peu, là. Ouais. Il y en a beaucoup qui font ça, là, malheureusement. Ouais. Mais ouais. Puis j'en fais partie.
Mais en même
peu.
Temps,
c'était
tu vois,
pas ma
c'est
cause,
que tu,
là.
Tu dis... C'est ça l'affaire que je trouve, moi. C'est que tu dis malheureusement, il y en a qui font ça.
Mais c'est bon, là, de faire ça.
Parce que je comprends...
Option,
non, mais je comprends le raisonnement, puis de dire que ça devrait peut-être pas fonctionner, qu'un DNF devrait... être pire qu'une finale.
Oui.
Sauf que moi, ce que je trouve qui est... Ce que j'aimais pas, en fait, de la culture du trail pendant que les quelques années que j'y ai participé, c'était que c'était qu'il faut se rendre à la fin no matter what.
Ouais, non, c'est ça.
Puis honnêtement, man, je trouvais que c'était comme un peu une obsession que les gens avaient. Tu sais, moi de, comme je te dis, si, tu sais, je disais à ma blonde, il devrait abandonner là, man. Refocus ton énergie sur un prochain objectif. Tu peux être invité élite dans n'importe quel événement, écrire un événement, écrire au Beaumont Ultra, écrire à n'importe quoi. Refocus ton, à place de continuer les 40 kilos de plus, te pisser du noir, te défoncer les pieds, tu sais. Tu comprends? Puis genre, moi, le DNF, man, j'ai comme... Ça me dérange pas. Tu sais, fait que, mais toi, étonné que tu n'en avais pas fait encore, tu voyais ça quand même gros à ce moment-là.
Encore à ce jour, je voudrais pas DNF une course. Ouais. Là. C'est juste qu'à ce
moment-là. Tu pars jamais en voulant DNF, non, c'est ça que je te dis. Là,
mais
c'est
aussi,
l'objectif.
À ce moment-là de la course, quand je faisais de la rhabdo, puis ça m'a pris une heure et demie avant de me rétablir, je me sentais super en forme. Là, on était au début de la course, on était à 48 kilos. Là.
Ouais.
Fait que j'avais vraiment gardé mes jambes, je me sentais super bien. Fait qu'en plus de passer une heure et demie à m'hydrater puis à me nourrir, fois que j'étais parti de là, je me sentais super bien. Fait que j'étais vraiment prêt pour ça. Fait que là, c'est sûr que c'est après, là, le niveau des pieds, au niveau des pieds, déshydratation et tout ça, c'est sûr que ça a chamboulé. Mais après ça, c'est ça. J'ai dû comme refocuser puis décider quoi faire pour qu'est-ce qui allait être mes prochains objectifs. Puis,
ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, c'est quoi qui s'est passé? Tu t'es dit UTHC?
Ben, c'était déjà dans mon objectif de peut-être enchaîner les deux en partant. Mais là, c'est ça, vu que je m'étais vraiment taxé au. Au UTCC, je me disais, je vais voir comment je peux me rétablir de tout ça, parce que les pieds, en partant, ça a pris un bon 2 semaines avant de revenir correct. Puis après ça, ma forme physique, ça a été... c'est quand même rough, là, même si j'ai juste couru 100 kilos. C'est quand même été debout pendant 24 heures, puis ça a été long. Là.
Oui.
Fait que c'était quand même une grosse course. Puis c'est ça. Fait que je me suis dit, je vais m'essayer pour UTHC, mais j'ai à peine couru entre les deux. Fait que j'ai vraiment juste reposé. C'est sûr que là, je suis parti en camping.
Mais combien de temps entre les deux?
C'était 3 semaines.
Okay, ouais.
Fait que je suis parti en camping la semaine d'après. Je me suis... On a fait... moi et ma copine, on a fait 9 heures ou... Je pense... Non, 10 heures de route pour revenir de la baie de Fundy. Même 12 heures, je pense. Puis je me suis fait une blessure dans le nerf sciatique, là, comme coincé.
En étant assis trop longtemps.
Ouais, ben 9 heures de 9 heures à conduire, là. Fait que ça a pris une semaine. Puis ça, c'était la semaine avant Ricana. Fait que
aïe.
J'ai eu le go du physio le jeudi. Puis je partais le vendredi. Fait que...
Ouais.
Ça a été ça a été rough
fait
aussi.
Fait que là. Pas toute une préparation non plus pour l'UTHC.
Non,
là.
Aucune préparation pour l'UTHC non plus, mais j'étais plus motivé. Puis je sais, c'est une course que j'ai faite, c'était ma 4e édition que je la participais, donc je connaissais la course, je connais le trajet, j'ai quand même confiance sur la distance. Fait que j'étais pas mal plus mentalement plus prêt pour ça. Puis avec tout ce que j'ai appris, je m'étais fait un gros Excel sheet avec toutes les choses que je devais préparer. Tout ce que je devais comme mettre en place pour mieux réussir. Là. Juste avoir une petite feuille avec tous les ravitaux, t'écris dessus ce qu'il y a dans le ravito, les kilomètres entre les ravitaux, des trucs comme ça, visuellement, ça aide, moi, je trouve.
Mm-hmm.
Fait que ça, j'avais tout ça, j'avais préparé ma nutrition aussi. Puis encore là, c'est ça, c'est beaucoup mieux passé, là, c'est sûr. Là.
Ouais.
Ouais.
Fait que le Arikana, t'es arrivé 3e.
Ben là, c'est ça. Là.
Mais ou 4e ou 2e?
Non,
2e ou 3e.
T'es
arrivé 3e.
J'suis arrivé 3e.
Ouais.
Ma position finale est 3e.
Ouais.
En 16h, une minute, là, je crois.
Mm-hmm.
Mais c'est ça. Dans le fond, la course s'est bien déroulée physiquement, mais. Même si j'étais supposément prêt, cette année-là de Arikana, j'avais été chercher mon dossard à Montréal ici la semaine d'avant.
Ouais.
Fait que j'avais fait mon gear check la journée de cette journée-là. On a été courir. Puis là, une semaine plus tard, j'arrive à Arikana, je prends le départ. Fait que là,
t'as pas rechecké ton gear.
J'avais jamais rechecké mon gear. Puis le matin même, j'ai manipulé mon gear. J'ai fait une photo. J'avais laissé, en tout cas, on a mal manipulé mes affaires. Puis il me manquait mon mon manteau de pluie ouais. dans mon gear. Fait que là, au kilomètre...
Une belle journée chaude en plus.
Ah, ouais, c'est ça. Il faisait super beau, pas de pluie, là. Mais c'est ça. Fait que là, tout allait bien. En plus, c'était la première année que je me disais, OK, je vais me garder des jambes. Toutes les descentes, je les ai contrôlées.
Ouais.
Je me suis pas donné parce qu'encore là, j'assimilais ça avec potentiellement avoir de la rhabdo. Ouais. Fait que je voulais vraiment faire attention. Je m'ai super bien hydraté. Par contre, je suis tombé malade au kilomètre 40. J'ai tout...
Ça passait plus.
Non, ma nutrition passait plus. J'ai tout sorti.
Après moi, t'étais pas sur le Upica.
Ouais, non. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai... fait que là...
ouais, non.
Okay. Fait que c'est ça. Fait que là, tout est sorti. Je me sentais vraiment mieux par après. Là. Fait que là, j'ai continué. Kilomètre 60, tout allait bien. Je m'étais vraiment gardé pour la deuxième moitié de la course. Là. Je me sentais super bien. Je commençais à accélérer au kilomètre 60.
Ouais.
Puis je gagnais des positions. En fait, je pense rester 2-3 tout le long. Là,
ouais,
4.
Je suivais ça.
Puis ouais. Puis là, c'est ça, là, au kilomètre...
Après une disposition quand Antoine a débarqué
ouais,
en haut. Là.
Exact. Fait que quand j'ai dépassé Antoine au kilomètre 80, puis ça, c'était une super de longue section, là, comme de faux plat montant dans du technique sur le bord de la rivière.
Ouais, sur le bord, après les Hautes-Gorges.
Exact. Ouais. Jusqu'au Coyote.
Ouais.
Fait que là, rendu, c'est ça, au Coyote, kilomètre 85, j'ai eu un gear check, aucun problème. Là, je sors mes affaires, puis là, je commence à fouiller. Ils me disent, on regarde juste la veste de pluie. Fait que là, j'ai été comme malchanceux, puis c'est ça qui arrive, là. Si ça avait été la couverture de survie, j'aurais été correct. Ouais. J'avais tout le reste, là. J'avais juste pas ça. Fait que là, ils m'ont dit, ben là, t'as pas le droit de repartir. Ils m'ont pas dit ça tout de suite, mais j'étais disqualifié, en fait, là.
Ouais.
Fait que là, moi, je savais pas. Moi, je pensais que j'allais juste comme une pénalité, puis je m'en allais. Là, ça a pris un bon 15-20 minutes qu'ils parlent avec les reps, puis la tête de la course. Puis là, ils m'ont dit, Antoine, là, mettons, après 30 minutes, ils m'ont dit, là, tu peux à repartir si tu as le matériel nécessaire. Fait que là, ben, on est en plein milieu du bois. Il fait quand même froid dans la nuit. Puis là, il y a personne qui veut me donner son jacket. Mais il y a Antoine qui vient d'arriver.
Qui vient, puis il abandonne.
Il vient d'arriver. Puis là, lui, il fait de la rhabdo comme solide. Puis il me dit... ben moi, j'ai dit, tu sais, moi, je suis sorti de la rhabdo. Là. Je sais pas si toi, ton intention...
Tu me dis ça comme si c'était genre... C'était une normalité. Genre, ben, il arrive là, il fait de la rhabdo.
C'était pas normal.
Il
n'y
a rien de normal. Si vous nous écoutez, vous faites ça, allez à l'hôpital.
Ouais, il faut absolument aller à l'hôpital, là, surtout si ça se maintient au fil des jours. Ouais. Non, c'est vraiment pas correct. Là. Mais après ça, ça arrive souvent d'uriner foncé. Fait que la ligne est mince entre uriner foncé parce que t'es juste déshydraté puis faire de la rhabdo.
Je comprends que la ligne est mince, mais il y a une ligne quand même.
Ouais, il y a une ligne. Fait que là, clairement qu'il se sentait pas très bien. Il a vraiment été généreux, il m'a juste laissé son jacket. Puis
lui,
il m'a dit,
sa course,
lui, il m'a dit j'arrête, là, moi je continuerai pas. Puis le médic, il disait la même chose qu'il devrait faire. Là, il suggérait d'arrêter. Puis là, il m'a donné ça. Moi, ça faisait une demi-heure que j'étais arrêté. Fait que je suis reparti le feu dans les jambes.
Le couteau
entre les dents. Fait que là, dans le fond, à ce moment-là de la course, je rattrapais les positions. J'étais rendu deuxième quand je suis arrivé au ravito. Puis j'étais 20 minutes derrière Victor, le premier. Mais là, quand je suis sorti de ce ravito-là, j'étais plus comme 50 minutes derrière Victor, puis Samir m'avait dépassé de, je sais pas, peut-être une 10-15 de minutes.
Ouais.
Fait que là, sur les 25 km après, j'avais le couteau dans les dents. Donc, du kilomètre 85 jusqu'au kilomètre 115, j'ai runné là, comme j'ai jamais fait. Là. Je me suis donné tout ce que je pouvais. J'ai dit, je vais tout brûler mon énergie s'il faut, mais je vais tout essayer pour rattraper des positions. J'ai fait, le segment assez rapidement. Je suis arrivé au kilomètre 115, 5 minutes derrière Victor en deuxième place.
Mm-hmm.
Puis
là, t'embarquais avec Dano. Là,
j'ai embarqué avec Danovic. Puis là, à ce moment-là, je pense que Victor, il a comme appris que j'étais vraiment pas loin. Fait que lui, il a accéléré.
Ouais.
Puis moi, après ça, j'avais vraiment brûlé
t'avais
beaucoup.
Brûlé, là,
j'avais brûlé beaucoup. Là.
Fait qu'après carbs,
ça,
là.
Non, j'avais plus de carbs. Puis en plus, j'avais revomi là, au kilomètre 70.
J'avais vraiment plus de carbs.
Ouais, j'avais plus grand-chose dans le corps. Là. Fait que ouais, ça a été très tough pour finir, mais j'ai maintenu ma position. Jusqu'à la fin cette année, il y a de la construction sur les télésièges, puis ils ont changé l'arrivée. Puis moi, j'avais pas regardé ça, parce que je pensais pas que c'était une option de changer une arrivée.
Mm-hmm.
Puis quand je suis arrivé pour tourner au sentier habituel, là, il y avait comme des pancartes qui disaient que non, puis je savais plus exactement. Puis là, Samir était pas si loin. Fait que là, on a comme été vers la bonne direction, mais moi, je me disais, c'est pas là que j'ai été l'an dernier. On est viré de bord, on a rejoint Samir. Là, on était rendu les deux coureurs plus les deux pacers ensemble. Mm-hmm. Fait que là, ça courait. C'était quand même assez challengeant.
Ouais.
On était dans la mauvaise direction, on est revenu, puis là, on était dans la bonne. Ça s'est fini sur un sprint final.
Sprint final jusqu'à la fin. Là.
Jusqu'à la fin. Le dernier kilomètre et demi, là, c'était assez intense là, de finir ça sur
les
un sprint.
Les pacers, ils suivaient-tu?
Non. Ben ouais, Danovic, il m'a suivi.
Tu gonnes.
Mais c'est ça, on a gonné. Là, puis
moi,
j'ai
vu que Dano allait être ton pacer, à la fin, ça va, là, parce que la vitesse de la fin, c'est.
Ouais, j'allais vraiment pas vite. Là.
Mais j'ai comme dit, hey man, t'es-tu sûr? Est-ce que vous avez couru ensemble? Parce que Antoine, il court vite en crisse, là.
Ouais, mais tu sais, sur 125, tu sais.
Ouais, mais la première section, elle arrive vite, tu sais. Elle arrive au kilomètre 35. Ouais. De 35 à 60, tu peux avoir encore des bonnes jambes. Il ne faut pas que tu ralentisses ton pacer.
Non.
C'est un super athlète,
bien,
là.
Ah, mais... ouais. Ça s'est bien fait, là. Il était très bon, puis il m'a bien motivé, là. C'est sûr que... il y avait des techniques comme il courait en avant de moi des fois, puis il me dépassait, puis il avançait, puis moi j'étais comme OK, ben, je vais accélérer. Là. C'était quand même motivant d'être ça. Là. Il était pas trop attentionné au niveau où il allait trop m'écouter comme dire OK, on va ralentir.
C'est il était bon, en cours, mon
estime. C'était le fun, ça. Là. Puis, fait qu'à la fin, on a sprinté.
Fait que toi, t'es arrivé deuxième, mais avec.
Je suis arrivé comme 5-6 secondes devant Samir sur le sprint final, mais. Moi, j'avais aucune idée. Rendu là, j'aurais peut-être pris la décision de laisser faire comme le sprint. Puis si je prenais la place pour rien, là, je le savais comme pas. Mais j'avais espoir que vu que j'avais passé 30 minutes au ravito, il allait compter ça comme la pénalité. Mais parce qu'il ne m'avait pas confirmé ça. Mais peut-être que c'est moi qui avais mal compris là, parce que je suis tellement content qu'ils m'ont juste laissé finir. Là.
Ouais.
Fait que c'était quand même un challenge de finir ça sur le sprint. Puis finalement, c'est ça. J'ai fini... en 15h35 ou quelque chose du genre. Puis là, avec 30 minutes de pénalité, ça m'a arrivé en...
Plus 30 minutes au ravito.
Ouais, ça.
Ben là, c'est comme un... Techniquement, c'est comme un 15h. Là,
ben, on pourrait là, dire ça, mais c'est dur à vraiment l'établir. Mais là, c'est sûr que je m'attendais à faire proche du 15h. Là, j'aurais aimé ça. Là. Surtout avec les conditions qu'on avait eues. Là.
Ouais. Puis, fait que le premier podium à l'UTHC.
Ouais, exact.
Fait que tu montes d'une position à chaque année que
tu fais. À chaque
année,
là, c'est ça.
T'as passé de 8 à 5, à 4, à 3.
Ouais, c'est ça? Non, 25, 5, 4, 3.
OK, fait que j'avais oublié.
Ouais, l'année, ça. Ouais, j'avais fait, c'était mon premier ultra à
vie.
Le 125 avec Cana, fait que...
Tu comptes-tu le refaire encore?
Ben, je sais pas où je vais être l'an prochain, là. Fait que si je suis au Québec proche, puis que j'ai fait le build d'entraînement pour ça, peut-être. Mais j'aimerais m'entraîner pour une trail aux États-Unis en avril. Pour peut-être me qualifier pour l'UTMB, juste pour le plaisir, puis pour aussi aller vivre l'atmosphère. Là.
Ouais.
Peut-être pas pour performer, mais j'aimerais ça aussi juste apprendre la course.
Au moins une fois. Là.
Ouais, au moins une fois, parce que je l'ai déjà fait, mais en 4 jours avec mon ami Raphaël. Fait que là, c'est sûr que j'aimerais bien ça, l'essayer. Puis ça me ferait de la belle pub aussi. Là. J'aimerais vraiment comme optimiser ma présence sur les réseaux avec la course à pied, puis tout ça. Là.
Ouais.
Fait que, c'est pour ça que l'UTMB, c'est quand même le Super Bowl de la trail. Ouais.
C'est ça qu'ils disent.
C'est ça
qu'ils disent.
Ouais.
Puis les problèmes de digestion liés à quoi?
Ben, le manque d'entraînement, le manque de préparation. Le manque
d'entraînement du système digestif.
Ouais, exactement. Ouais. Là, d'entraînement comme de manger beaucoup de carbs. Là. J'ai vraiment pas optimisé ça dans ma période, ma saison d'entraînement. Fait
ça coûte cher.
Ça coûte cher.
Ça coûte cher. Allez faire un week-end, mettons. Là. Moi, puis tu sais, je veux dire, Rubika, je le paye pas. Là.
Ouais, non, c'est
à moi.
Oh, ouais, absolument.
Fait que. Aller faire un week-end, genre aller faire une long run de 8 heures. Là.
Ouais.
Puis que si tu veux travailler ta nutrition à 80 à 100 grammes à l'heure, mettons, ou 75 à 100, calcule en gel Morten.
Ça vient.
Ça monte vite à 5$ le gel. Là.
Ah ouais, ça peut monter à des entraînements de 100$ et plus.
Genre.
Là,
genre.
Que c'est pas nécessairement pour cette raison-là.
Ça, ta blonde, là, je m'en vais. Premièrement, le dimanche qu'on est supposé passer ou qu'on pourrait passer ensemble, je m'en vais 8 heures dans le bois. Puis ça va me coûter 100$.
Ben, c'est ça aussi. Mais je suis quand même chanceux à cause que ma job, c'est de la plantation d'arbres.
Ouais.
Une fois que j'ai arrêté de planter, je me suis comme entraîné un peu full-time. Fait que je pouvais aller m'entraîner la semaine dans les journées un peu random. Fait que ça, au moins, je suis content pour ça.
Plus facile sur
c'est
la
plus
vie.
C'est plus facile,
sur la vie en général, la vie sociale.
Puis parce que c'était comme un peu ma job là, cet été.
Ouais.
Là, fait que c'est ça qui est le fun. Mais c'est sûr qu'encore là, j'ai fait un mois de ça. Là.
Ouais.
Tandis que pour me préparer autant, j'aurais peut-être dû en faire 6. Là.
Ouais, exact. ou 6 ans.
Ouais, 6 ans.
Constance,
absolument.
Là,
absolument.
C'est surtout ça à faire.
Ouais, c'est ça.
Parce que ça se build sur des années.
Ah, ouais, absolument.
Mais toi, je me rappelle la première fois que je t'avais vu.
Ouais.
Tu m'avais écrit déjà sur Instagram.
Ça se peut,
Puis là, j'étais
on s'est croisé à Tremblant, c'est ça.
Pour un événement.
Ouais.
Puis là, t'étais en train de... Tu venais de faire un demi-Ironman sur le parcours du Ironman.
Ouais,
tu faisais l'Ironman
deux semaines après. Ouais.
Ça faisait pas longtemps que tu faisais du sport d'endurance à ce moment-là. Est-ce que je me trompe? Ça a-tu commencé de bonne heure pour toi?
Ben, j'ai toujours couru depuis que je suis tout jeune.
Ouais.
Mais le sport d'endurance, on va dire comme marathon, là, et plus...
Ouais.
J'ai commencé à mon premier marathon à 17 ans.
Ouais.
Puis j'en ai fait un par année, tu sais, sans entraînement, juste parce que on organisait des marathons dans ma famille, le marathon Baie des Chaleurs en Gaspésie. Puis c'était comme dans nos valeurs de courir et tout ça. Donc j'en faisais un par année, mais à ce moment-là, je pense que c'est ça. Là, en 2020, j'ai commencé à courir à tous les jours. Ouais. Et j'ai dit, ah, je vais me lancer un défi parce que j'ai jamais une structure d'entraînement.
Ouais, je me rappelle de ça. Ouais,
j'ai jamais eu une structure d'entraînement du tout. Je courais une fois par semaine, des fois quatre fois semaine, des fois zéro pendant deux mois. Fait que là, j'ai décidé de mettre ça comme objectif de courir à tous les jours et de comme un minimum de 1 km au départ. Ouais. Je me dis, il faut au moins que je sorte, mais une fois que je suis sorti, souvent j'allais faire 5, 6.
C'est tough de faire juste 1 kilo, une fois que t'es parti.
Sauf dans tempête de neige à moins 40, ça, j'allais faire 1 kilo souvent.
Ouais.
Là.
Ouais.
Fait que c'est ça, c'est là que c'est mon intérêt puis engouement pour la structure, l'entraînement, puis un peu plus l'entraînement sérieux, c'est là que ça a starté.
Ouais. Fait que ça fait pas si longtemps.
Ça va faire 3 ans. Trois ans, ouais.
Puis t'as quand même eu une ascension à ça. En fait, premièrement, t'es athlétique de base, ça c'est sûr. Tu as des propensions qui sont... Protensions? En tout cas, t'as des caractéristiques physiologiques qui te permettent d'être bon de base.
Oui, puis avec parce la plantation aussi.
Ben, c'est ça. Ouais. Là, je m'en allais parce que ton Ironman, il était quand même vite. Là.
J'ai fait en 10 h 51 secondes.
Puis c'est
juste en haut de 10 heures.
Ouais, c'est ça, juste pour dire. Ouais, juste pour faire un peu. Ouais. Sur ton premier Ironman avec pas beaucoup de base de natation aussi.
70 000 mètres.
That's it?
Ben, c'était ça que j'avais fait dans les 8 derniers mois.
Ah, c'est ça. Fait que c'est vraiment. Des fois, moi, c'était une semaine de natation quand je m'entraînais.
Je le sais.
Puis, fait que ça, c'est pour démontrer à quel point, comme athlétiquement, t'es quand même là.
Ouais.
Mais surtout, le background de planteur.
Ouais.
Parce que moi, des fois, je regardais ton Strava, man. Mm-hmm. Puis c'est comme, tu sais, tu mets les moments où est-ce que tu plantes.
Ouais, je mets les moments de Strava pour ça.
Les segments de plantation, c'est genre 6 heures de temps sur tes pieds.
Mais souvent, ça dit 6 heures parce que ce travail, il bug beaucoup avec le quand j'arrête de planter un arbre, ça le stoppe puis ça repart pas tout de suite. Puis, mais c'est des journées de 9-10 heures.
9-10 heures sur tes pieds, penché de même.
Puis comme.
Ouais. Physique, à travailler physiquement. Fait que ta job, c'est un peu de l'entraînement du ultra.
Ouais, c'est de la base d'entraînement fondamental.
Ouais.
Vraiment, c'est de l'endurance.
C'est de l'endurance d'être. Ouais,
la zone 1, là, pratiquement.
Toi, mettons justement à faire 15 heures au UTHC. C'est pas bien plus qu'une journée sur tes pieds de plantation. Oui, c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus. Sauf que tes journées de plantation, mais des fois, tu fais des semaines et des semaines à 10 heures par jour, à pencher de même, physique.
Ouais.
Est-ce que tu traites ça comme des ultras quand tu le fais?
Ouais,
c'est quoi
absolument.
Tu manges? Mettons, t'as-tu tes purées, man? T'as-tu tes affaires avec toi?
Ouais, dans le fond, j'ai toujours comme. Ben, avant même de connaître c'était quoi la nutrition sportive, là, à ce moment-là, j'ai toujours mangé des trucs rapides comme des sandwichs avec du beurre d'arachide ou
pain
de la
blanc.
Jelly, genre de la confiture, du pain blanc, des fruits, des noix, tu sais, des trucs rapides avec des chips, mettons, pour atteindre le taux de sodium, là, tu sais, sans le savoir, là, tu manges ça de même.
Parce que t'as envie de saler parce absolument. Que ton corps a besoin de sodium, fait que t'écoutes les signaux de ton corps puis tu manges salé.
Dans une bonne journée de planting en Alberta, quand je plantais entre 7, 8, 9 000 arbres par jour, je pouvais boire 12 litres d'eau puis j'en urinais aucune fois. Là.
Ouais, c'est
ça. Je le suais au complet. Fait que fallait vraiment que je reprenne mes électrolytes de cette façon-là. Je buvais pas vraiment de Gatorade. Je pensais pas à ça. Là.
Ouais.
Des fois, oui. Là, mais fait que c'est ça. J'ai vraiment une bonne base d'entraînement. Puis souvent, ça, mettons, ma dernière saison dans l'Ouest, c'était l'année avant que j'ai commencé mon build Ironman. J'ai fait 4 mois dans l'Ouest où je plantais 3 journées. J'avais une journée de congé. Fait que je plantais 24-25 journées par semaine à 10 heures sur les jambes. Fait que c'était vraiment
23-25 journées par mois.
Par mois. Ouais, j'ai dit par semaine.
Ouais.
OK, ouais, par mois. Ouais, ça. Fait que c'était une semaine, c'était 5 jours. L'autre semaine, c'était 6 avec des offs à travers ça. Là. Fait que c'était vraiment du gros volume. Puis c'était à tous les jours, je poussais mon corps à la limite.
C'est
là.
Ça, exact.
Je me donnais tout ce que je pouvais pour planter le plus d'arbres
parce
possible.
Parce que vous êtes payé à l'arbre.
On est payé à l'arbre. Puis on était payé. Comme c'était quand même du volume, là. Fait que c'était des 7, 8, 9 000 arbres. Il y a une journée, j'ai fait 10 000 en 10 heures. Fait qu'on plantait beaucoup, beaucoup d'arbres. Puis c'était vraiment le même type de mentalité que l'ultra. Là. Tu optimises toutes les facettes de ta journée pour ne pas perdre de temps. Parce que si tu prends une seconde de plus pour dévisser ta bouteille d'eau, puis tu te la mets dans la bouche comme ça, ça va te prendre une seconde de plus. Mais si tu le fais 100 fois dans la journée, ben là, c'est 2 minutes. Puis là, ça prend... toutes ces affaires-là s'accumulent.
C'est 2 minutes, puis ça prend tant d'arbres.
Ouais, ça, c'est une trentaine d'arbres, puis whatever. Fait que c'est vraiment...
Mais fait que c'est 10 heures de temps à te dire qu'il faut maximiser la plantation.
Ouais, fait que c'est mentalement comme drainant aussi.
Mais 10 heures, c'est... Vous êtes, mettons, là, t'es pas obligé de me dire tu fais combien par année, mais Combien d'arbres, combien ça c'est par arbre?
Ben, je peux donner un comme de ça, ça me dérange vraiment pas parce que je fais plus ça de toute façon parce que je plante au Québec maintenant. Puis mes avenues, je pourrais en parler plus tard, mais mes avenues de planting ont totalement changé depuis. Ouais. Mais ce type de plantation d'arbres-là, c'est de la monoculture. On est payé entre 13 et 15 cents de l'arbre. Planter 7-8 000 arbres, tu fais au-dessus de 1 000 $
dans une journée.
Fait que c'est 100-150 pièces de l'heure souvent dans une, par jour. Là. Ouais, fait que c'est vraiment payant quand tu es optimisé puis capable d'aller vite. Là.
Ouais, ça a l'air de médecin. Là.
Ouais, quasiment. Là. Tu ne travailles pas autant souvent, ouais, là, ouais. Tu travailles juste des petites périodes. Là. Ouais. C'est dur de garder ce beat-là longtemps. Plus que 2 mois.
Ben oui,
honnêtement, là, fait que tu peux faire 1 mois et demi, 2 mois là-dessus. Puis c'est les contrats. Ça, c'était le contrat. Tu te fais dropper en hélicoptère le matin sur ton terrain. Tu plantes les arbres qui sont toutes bien placées par ton crew boss. Tu arrives le soir, ils viennent te chercher en hélicoptère. Ça prend 10 minutes, tu es revenu sur le campement. Fait que c'est vraiment comme in and out, c'est rapide.
On refait ça la semaine prochaine.
Le lendemain. Ouais. Ouais. Tu te manges, tu te couches, tu refais ça le lendemain.
Fait que c'est des camps d'entraînement d'ultra, dans le fond, c'est ça que c'est.
Un peu, ouais. T'sais? C'est des camps. Ben ouais. Honnêtement, c'est plus proche de l'esclavage qu'autre chose. Mais c'est.
Au moins, t'es payé.
Ouais, t'es dans des campements, tu dors dans une tente.
Tu choisis d'être là.
Ouais, tu choisis d'être là.
C'est ça la grosse différence.
Ouais, c'est pas de l'esclavage, mais c'est vraiment. C'est pas un camp d'entraînement parce que c'est vraiment pas optimisé pour la course. Oh, là, ouais. Mais
c'est du temps sur les pieds.
C'est du temps sur les jambes, ouais, ouais. Sur les pieds.
Puis tu dis que tes avenues de plantage ont changé maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ouais, ben dans le fond, quand j'ai fait cette saison-là, qui a été ma meilleure saison à vie en termes de plantation.
C'est là que tu as fait le record du monde.
C'est ça, exact. Dans le fond, je buildais vers le record du monde. Je m'étais tout inscrit depuis même un an, là, quasiment.
C'est long, ça. Hein?
Ouais, j'étais prêt. Là. Fait que là, dans le fond, la process était vraiment lent, puis il y avait beaucoup d'étapes à suivre pour respecter les
guidelines. Y a-tu quelqu'un qui est venu te regarder?
Dans le fond, j'avais 2 témoins. Ben, j'avais 6 témoins qui se faisaient des shifts à toutes les 4 heures. Fait que, parce que faire venir quelqu'un de Guinness, ça coûtait 20 000 piastres US. Puis il en fallait 2. Fait que ça aurait coûté comme 40.
Il faut que ce soit filmé sans arrêt.
Ouais, faut que ce soit, ben oui, ou qu'il y ait des témoins. Fait que ça, c'est un ou l'autre. Là. Le plus de films possible. Parce que, tu sais, on était dans le bois, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'électricité. Fait que c'est dur de garder des caméras roulées pendant 24 heures. Ouais. C'est pas comme filmer. Manger une pomme en 1 minute, là, c'est pas autant évident de filmer ça. Surtout si t'es dans la forêt, il n'y a pas d'arbres, mais il y avait beaucoup de buissons partout.
Manger une pomme en 1 minute, mais je pense que c'est déjà fait.
Oh, non, c'est ça aussi. Là. Mais c'était un record qui était déjà établi depuis 2001. Là.
Ouais.
Fait que c'est ça, c'était 15 170, puis j'ai fait 23 060.
C'est fou.
Ouais. Fait que c'est ça, cet été-là, j'ai buildé tout mon volume. Là. J'ai commencé dans une saison, dans un petit contrat, dans le mois d'avril, c'était vraiment pas payant, mais c'était vraiment juste pour un peu comme ma pré-saison. Fait que là, j'ai commencé à planter là pendant 1 mois. Après ça, j'ai switché sur un contrat, mon contrat de record, qu'on était par contre en Saskatchewan à ce moment-là. J'ai planté dès mes premières semaines là-bas, là, je plantais déjà des 6-7 000, puis je sentais que c'était allait être une belle saison. Là, je savais. Là.
Mais tu dis, mettons, là, tu es sur un contrat, là, tu dis à ton employeur, c'est comme, ouais, là, je vais essayer un record Guinness.
Ouais, c'était en accord avec eux.
C'était correct.
Je les ai convaincus.
C'est
là,
sûr qu'ils s'en calissent.
Au départ, il s'en foutait pas vraiment parce que lui, ça allait coûter cher. Là, c'est comme.
Ouais, non, mais je comprends, mais il faut qu'il les plante de toute façon.
Exactement, il faut que les arbres soient plantés de toute façon.
Ça va coûter cher cette fois-là, mais il faut qu'il plante les arbres.
Mais c'était une belle pub marketing pour lui, puis c'était une belle visibilité. Mais il m'a pas dit oui tout de suite. Fait que dans le fond, il voyait l'engouement de comme j'avais un peu de réseaux sociaux aussi que ça avançait mes affaires avec TikTok. Je faisais des vidéos, puis le monde, il était vraiment de l'engouement là-dedans. Fait que là, il voyait ça, puis il voyait comme ma progression au niveau de la plantation. Là. Les autres années, j'avais fait des 5000, mais pas autant régulièrement. Là, à ce moment-là, je faisais des 5000 à tous les jours, 8000, 9000. Puis là, à ce moment, quand j'ai fait, je pense, le 10 000 en 10 heures, il a fait comme OK, let's go, on met tout pour
qu'on
y va. Là. Puis il avait confiance en moi. Là, parce que j'avais fait 10 en 10. Fait que le 24 heures était quand même faisable pour faire un 5 000 de plus. Là. Oui. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai fait un gros volume. Le mois d'avant, dans le fond, c'était comme un build-up de course
le
à pied. Là. J'ai planté 178 000 arbres en 1 mois. Fait que moyenne de 8 000 par jour. Puis là, c'est ça. J'ai fait un taper. J'ai arrêté de planter un petit peu moins la semaine avant. Puis là, le jour de la course,
le jour du record,
on s'est pointé là. Il y avait 2 hélicoptères. On était 8 trucks. C'était vraiment un gros truc. Là. Puis en plus, c'était ma compagnie de planting contre une autre compagnie de planting. Puis il y avait un planteur. Fait que c'était les 2 champions de compagnie qui se compétitionnaient entre eux.
Eux autres, ils essayaient de faire le record aussi.
Ben oui, ils embarquaient dans mon événement. Parce que la compagnie mère qui faisait tout le planting dans la région nous avait vraiment aidés. Puis ils divisaient les contrats en 2. Fait que là, ils ont dit, on va donner l'opportunité aux 2 compagnies. Par contre, eux autres, ils s'étaient pas inscrits sur Guinness. Le gars, il avait planté, je pense, 3 000 arbres dans sa plus grosse journée de l'été. Là. C'était un bon planteur, mais il était pas Il était pas prêt pour ça. Ouais. Là, il était quand même très bon. Là. Puis c'est juste impressionnant qu'il a pu. Il a planté 18 500 arbres finalement. Fait que ça a été une grosse journée pour lui aussi. Par contre, moi, de la façon que je l'ai faite, j'ai suivi toutes les guidelines, toutes les façons que le Kenny Chaplin l'avait faite en 2001. Dans le fond, je mettais les arbres dans mes sacs moi-même. Je développais les arbres de leur petit wrapper moi-même. Je faisais tout moi-même. Puis, tandis que l'autre, lui, il se faisait remplir ses sacs, tout préparé. C'est plus rapide. Là. Mais c'est ça, parce que lui, il dérangeait pas. Ouais. Là, c'est qu'il voulait pas aller pour le Guinness. Fait que, il voulait juste aller pour un record personnel, qui était vraiment fort. Là. Fait que c'est ça. Ça s'est bien passé. J'ai mangé des gels. Je m'étais commandé une boîte de gels sur Amazon sans vraiment savoir c'était quoi. Là. J'ai vraiment du sucre. OK, je vais tester ça. Ouais. Jamais testé le produit.
T'as rien mangé de solide pendant la journée ou t'as arrêté de prendre des pauses de
deux, trois bars Cliff, une banane, une sandwich au bord de peanut. Honnêtement, je me rappelle presque pas ce que j'ai mangé. Là. Il a mouillé toute la journée. J'ai bu toute la journée. J'ai uriné toute la journée. C'était pas optimal. Là. T'sais, j'avais aucune stratégie. Là.
Ouais.
Fait que j'étais sûrement complètement à terre là, à la fin de la journée.
C'est sûr,
là.
Man, c'est sûr. Mm-hmm. Puis quand tu dis que tes avenues de plantage ont changé après ça. C'est quoi? Ouais?
Fait que dans le fond, une fois que j'ai fait ça, j'ai atteint un peu le... Parce que j'ai toujours une mentalité avec le planting où je voyais ça comme une compétition, un sport, puis je voulais me motiver, planter le plus possible, sans vraiment avoir la conscience de c'est quoi la plantation, tu plantes quoi, tu plantes où, c'est quoi les impacts sur l'environnement. Puis tout ça, c'est venu avec l'avenue de mes réseaux sociaux où j'ai vu l'engouement des gens envers la nature, l'environnement, puis aussi l'ouverture des personnes qui se connaissaient un peu plus dans l'industrie de la foresterie sur le pourquoi c'était pas bon, puis comme il y a un peu les haters.
Ouais.
Les haters de tout ça, de moi, là, t'sais, j'en ai. Puis ça m'a fait ouvert l'esprit au niveau de OK, c'est peut-être pas si bon là, la plantation, de comment on le fait. Puis là, à ce moment-là, en plus d'avoir atteint comme le summum de la performance au niveau du planting, j'ai un peu eu une moins grosse passion pour ça. Je me suis juste dit OK, je vais switcher sur faire d'autres choses. Puis que là, je me suis inscrit au Ironman. Fait que là, j'ai switché pour un autre projet plus. De performance, fait que j'avais moins ça vers le planting, là. Je sais pas si ça fait du sens. Là.
Ouais.
Fait que j'ai switché mon engouement pour la performance puis mon dépassement de soi sur l'Ironman. Fait que c'était un rêve depuis toujours de faire ça. Là. Fait que là, l'été d'après, j'ai planté avec un petit contrat en Gaspésie, super contrat. Là. J'avais un gars qui travaillait avec moi, c'était mon crew boss personnel. Fait qu'il plaçait mes arbres où je voulais, il travaillait, il me filmait si je voulais, il était vraiment libre. Là. Il avait beaucoup de temps pour m'aider.
C'était-tu mieux, selon toi, environnementalement parlant?
Ouais, dans le fond, ça, c'était seulement des compagnies, des terrains privés. Comme exemple, tu as un terrain, tu coupes ton bois pour te faire un chalet. Là, on s'en vient, nous autres, on plante les arbres pour reforester ton terrain. Fait que c'est aucune coupe forestière du gouvernement que j'ai faite. J'ai travaillé seulement sur des terrains privés. J'ai adoré ça. Tu sais, souvent.
Plantation diversifiée?
Ouais, souvent un peu plus. Ou ce que la personne voulait replanter chez lui. Là. C'est malheureux, mais même si on veut les convaincre, les gens ils plantent ce qu'ils veulent. Là. Fait que des fois, je plantais avec les propriétaires. Là. C'était juste comme une belle expérience. C'était pas mal plus le fun. Puis aussi, je me sentais que j'avais un meilleur impact là, sur ce que je faisais. C'est sûr que ça m'a permis de m'entraîner parce que je poussais beaucoup moins sur le planting. Je plantais des moins grosses journées, moins d'arbres. Puis après ça, j'allais faire mes entraînements d'Ironman. Là, des fois, je nageais le matin, j'allais faire ma journée de planting. Puis le soir, j'allais faire du bike. Puis je faisais des intervalles. Fait que c'est comme... Il y avait pile la fin de semaine, je faisais mes gros builds de course puis de vélo. Là. Fait que ça a été une saison plus où ce que j'ai switché mon mindset de la performance vers le sport.
Ouais.
Fait que c'est là que mon ouverture d'esprit envers la nature puis l'écologie, l'environnement, la biodiversité des forêts, ça s'est tout ouvert. Puis j'ai réalisé que genre, je veux avoir un meilleur impact.
Ouais.
Surtout avec mes réseaux maintenant que j'ai comme au-dessus de 2 millions d'abonnés sur mes réseaux. Fait que là, j'ai l'impression que je peux créer quelque chose de plus gros que moi-même.
Mm-hmm.
Fait que là, avec tout ça, j'aimerais ça, créer des projets qui viennent aider l'environnement plus que la foresterie. Là.
Ouais.
Puis c'est avec ça que je fais Vanna. C'est pour ça que Vanna existe. Puis ma compagnie de planting maintenant, où est-ce que on va planter dans des projets.
Est-ce que vous n'avez fait une couple de contrats déjà?
Ça se start en même temps. Fait que non, j'en ai pas fait de contrat encore.
Ouais.
J'ai déjà des trucs alignés. J'attends des nouvelles aussi, j'aimerais ça. Il y a une compagnie à Madère, exemple, qui m'ont contacté. Eux, ils ont eu des gros feux de forêt dans un des parcs régionaux. Puis là, ils me disent on aimerait ça que tu viennes planter des arbres. Fait que c'est des projets de ce genre-là où j'aimerais supporter comme des reforestations après des sinistres, mettons.
Ouais, ouais.
Ou une mine, admettons qu'il y a une mine, c'est malheureux, mais les mines, admettons qu'elle devient à sec, elle devient à sec, ils abandonnent, c'est abandonné là. Fait que c'est un terrain. libre, puis on peut juste planter des arbres là pour aider la nature. Fait que ça, j'aimerais ça faire ça aussi. Mm-hmm. Il y a plein d'avenues pour reforester la planète.
Ouais, ben oui.
C'est vraiment dans cette optique-là où que je m'enligne avec mes projets de planting.
Ouais, ouais. Cool.
Ouais.
Puis, tu sais, je veux dire, c'est quand même une source de revenus, là, le planting.
Ouais,
c'était
exact.
Une source de revenus.
Ouais.
Là, mettons, puis encore une fois, je veux pas savoir combien tu fais par année, mais comment est-ce que tu gagnes ta vie en ce moment?
Ben c'est ça, là, c'est la ligne mince entre est-ce que je gagne ma vie ou je fais juste de faire de la charité, mais c'est de trouver l'avenue où je vais être capable de... Tu sais, Vanna, malheureusement, on veut planter des arbres. Fait que c'est sûr que je m'attends pas à me dire... C'est pas comme une compagnie, je veux comme faire du revenu nécessairement, mais...
Ben, je dirais...
On l'espère un jour, là. On l'espère un jour, mais le but, c'est vraiment d'avoir le plus gros projet de planting ever. Tu sais, si on vend 1 million de canettes, on va planter 1 million d'arbres, ça va être le plus beau projet que j'aurais jamais fait de toute ma vie. Fait que l'avenue de ça, c'est vraiment de planter le plus d'arbres. Après ça, moi... Je vais essayer de me trouver des projets où ce que je peux planter par moi-même aussi, puis je peux avoir des subventions. Fait que tout ça va essayer de se runner. Mais ma meilleure source de revenus que je vise en ce moment, c'est les réseaux sociaux, YouTube. Fait que dans le fond, tout ça va... Ouais, dans le fond, j'aimerais ça commencer YouTube. Là, j'ai 5000 abonnés. Je veux dire, je sais pas.
Je te pose la question parce que je pensais pas que t'étais sur YouTube.
Non, ben ça, je suis pas nécessairement sur YouTube. Je partage des shorts en ce moment. J'ai deux vidéos, là. La vidéo de mon record Guinness, puis une vidéo de A Week in the Life of a Tree Planter. Fait qu'on a fait ça cet été, là, avec Phil Rouleau. Fait que moi, mon but avec ça, c'est de créer des programmes où, exemple, on peut donner de l'argent, puis Vanna aussi peut financer des projets. Exemple, t'as une ferme, tu veux planter 10 000 arbres, mais là, on va venir faire une vidéo sur OK, tel fermier, telle famille, pour quelle raison on plante des arbres, on va faire une petite biographie, tout ça. Fait qu'un petit vidéo comme moi, juste pour présenter le projet, puis j'espère que ça peut avoir, on peut avoir des sponsors, puis des trucs pour pouvoir revivre de ça là, un jour. Là. Fait que,
c'est cool, man, c'est des cool projets, ça, pour vrai. Félicitations, on dirait que. Là, je sais pas, c'était quand la dernière fois qu'on s'est parlé, nous autres?
Je sais pas, ça fait sûrement un bout, là.
Ouais, ça doit faire un bout, mais je sais pas, on dirait que tu sembles être à une belle place, là, parce que je me rappelle avoir déjà eu l'impression que tu te cherchais un peu.
Ouais, ben me chercher, c'est sûr que quand j'ai fait le record Guinness, j'avais quand même atteint un niveau où je me demandais qu'est-ce que j'allais faire maintenant,
qu'est-ce qu'on fait.
C'est un peu le pic de ce que je voulais faire dans ma saison. Là.
Ouais.
Puis aussi, à la suite de comme j'ai réalisé que c'était pas si bon ce qu'on faisait, puis je voulais peut-être changer mon avenue sur la plantation, ben là, ça m'a comme remis en question parce qu'il n'y a pas vraiment de projet écologique qui paye. Je peux pas vivre de ça. Fait qu'il fallait, tu sais, c'est sûr que je suis encore en train de me chercher.
Drôle, honnêtement, c'est encore drôle, man. J'avais cette conversation-là, puis là, on sort évidemment du sport d'endurance, mais on a reçu sur le Sans Filtre podcast David Côté, qui est le gars de Loop Mission. Puis,
super belle mission.
Lui, son point de vue, puis c'est un argumentaire qui est vraiment valable et moi, je trouve extrêmement pertinent, c'est de dire si tu veux changer le monde, t'as pas le choix de faire de l'argent.
T'as pas le choix
d'être profitable pour pouvoir amener des vrais changements. Parce que ça, évidemment, il y a des OBNL qui font des changements, définitivement. Mais si tu veux en faire des gros, t'as comme pas vraiment le choix. Fait que les deux peuvent cohabiter.
Gros changement, gros moyen, là. C'est ça
gros
aussi,
moyen,
là,
gros changement, exact. C'est exactement.
Ça en prend, là. Je comprends.
Fait que tu sais, les deux peuvent cohabiter. Je veux dire, Vanna, ça peut être un succès commercial et économique. Plus ça n'en est un... Ben plus la mission en est une qui réussit
parce
aussi.
Parce que, tu sais, là, en ce moment, on fait une petite brosse où on fait quelques milliers de canettes, puis on fait les projets. Après, l'année prochaine, on va planter ces arbres-là dans des projets super éco-responsables, mais tu sais, c'est des petites affaires pour faire du contenu puis faire des beaux vidéos. Tandis que, tu sais, une fois qu'on a planté 1 million d'arbres, ben là, je peux faire affaire avec des projets vraiment legit où il y a de la technologie dans les forêts, où ils vont utiliser des caméras, des caméras de surveillance, plein de technologies pour... adapter la forêt, puis aussi voir la progression de tout ça, comment ça pousse.
Tu te rends pas nécessairement là en grattant des scènes, des subventions. Il faut que tu fasses de l'argent, faut que t'en génères.
Non, c'est dans les quarts de million pour en partant là, pour les projets de planting du genre. Mais c'est les meilleurs projets pour avoir une biodiversité et tout ça. Donc, c'est ça. Une fois rendu là, c'est sûr que ça va être différent, les moyens et tout ça, là. Mais il faut se rendre là. Fait que faut faire beaucoup de...
Man.
Un peu de grinding avant.
C'est hot, mais je trouve ça hot. La mission est claire. Là. L'objectif est clair. Puis tu sembles à une bonne place. Puis t'as une tribune pour propulser ça. Là.
Ouais.
Ça, c'est la meilleure chose. C'est de... Mm-hmm. Je le sais bien. Là, c'est de d'utiliser ta tribune en tremplin. Là.
Ouais, c'est sûr que ouais, la sortie de, c'est ça, de avec ton réseau, c'est sûr que ça, ouais. ça a dû aider là, tous les projets que tu fais.
Tout
là.
À fait.
Puis je suis sûr qu'au fil du temps, ta tribune elle a comme switché aussi de comme.
Exact.
Il y a une rotation là, de comment la tribune ATM ou comment qu'elle t'aime plus. Puis là, finalement, tu as des nouveaux abonnés.
Ouais, je veux dire, quand Leonardo DiCaprio a partagé tes affaires, puis que ça a vraiment explosé, c'est un peu à ce moment-là.
C'est à ce moment-là que.
Tu sais, que là, tes réseaux sociaux sont devenus énormes. Mais là-dedans, il y a une trollée de monde qui t'aime pas. Là.
Ouais, non, c'est ça.
Sauf que ce moment-là, ils vont s'en aller à m'amener.
Ouais, c'est t'sais, ça.
Puis là, une fois qu'ils s'en vont, moi, je reçois plus aucun commentaire de marde parce que le monde qui continue à me suivre parce qu'ils veulent me suivre.
Exact.
Ils ont appris, j'étais qui, là.
Ah, ouais.
Fait que. Ça se fait avec le temps un peu.
Ouais, c'est drôle à voir aussi, mais ça fait quand même 2 ans. Puis là, c'est sûr que depuis, ça m'a gagné quand même un bon 25 000 abonnés. Ça. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé.
Une journée, là.
Ouais, ça, un après-midi, là, je me suis réveillé, puis c'était comme, oh, OK.
Ouais, c'est fou. Hein.
Ça vient de changer beaucoup de choses. Là, fait que ça m'a donné comme la piqûre, c'est sûr, là, pour voir cette avenue-là. Là.
Ouais. Cool, man. Ouais. Merci beaucoup. Puis les gens, ils peuvent te trouver sur les réseaux sociaux.
Ben,
t'es sur TikTok, Instagram, et maintenant YouTube qu'on a appris.
YouTube, Anthomos, Vanna Hydration aussi.
Ouais, exact. Ouais. Suivez ça, checkez ça.
Ça va être publié là, quand le podcast va sortir.
Cool, merci, man.
Merci à toi.